Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de la confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche et de formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou le résumé de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Ça faisait longtemps que j'avais si peu envie d'enregistrer un podcast. Voilà, quelle introduction. Alors, c'est pas un problème vis-à-vis de l'enregistrement. En fait, j'ai envie de l'exercice, mais je suis un peu perdu sur ce que j'ai à transmettre. Ce qui m'a motivé, c'est de me dire que le podcast sert à ça. Il sert à parler aussi quand j'ai pas envie ou quand plutôt je me sens pas légitime à parler ou à continuer. Le problème, c'est pas l'envie. Et donc, me voilà lancé sur cet épisode sans structure originelle, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment thèse, entreprise, développement personnel. J'ai noté quelques points, j'ai eu du mal à trouver ces quelques points. Et voilà, un petit peu de roue libre cette semaine et un petit peu finalement de pur jus de ce qu'est le building public, c'est-à-dire un nouveau creux de la vague, même si c'est un creux de la vague assez étrange parce que sur certains plans c'est le haut de la vague et sur certains plans c'est le creux de la vague. Mais bon, si l'épisode doit porter sur ça, eh bien au moins on voit comment on peut évoluer tout le long d'un projet tel que le mien. Alors par quoi commencer ? Je vais commencer par ce dont les personnes commencent quand ils n'ont pas d'idée, c'est-à-dire parler de ce qu'il y a autour d'eux. Et autour de moi, j'ai un énorme post-it. Donc en fait, c'est... voilà, il y a des gens dans les bureaux qui ont ce genre de choses. C'est une grande feuille qui me sert à limite de tapis de souris sur lequel je peux écrire. Et j'ai eu la bonne idée, mais également la mauvaise, de lister tous mes contrats, tous mes sujets, et de faire une liste de choses à faire. Et en fait, quand je la regarde, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 sujets, 13 dossiers sur lesquels je travaille avec en moyenne 3 cases à cocher. Ouais, je vérifie, mais ouais, en moyenne 3 cases à cocher par sujet. Donc j'ai 13 fois 3, 39 petites cases dans ma tête qu'il faut avancer. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a stressé. Mais en fait, ce qui est embêtant, c'est que ces 39 choses à faire, elles sont toujours dans ma tête. Et si je ne me mets pas à les écrire, eh bien, elles viennent et j'ai peur de les oublier. Et si je les écris, en tout cas, en les laissant sous ma vue toute la journée, ça peut stresser. Donc, soit on stresse d'oublier les choses à faire, soit on stresse parce qu'on a des choses à faire. Alors, voilà peut-être une des raisons du mood du moment, même si je travaille beaucoup sur mon stress ces derniers temps et j'ai peut-être 2-3 choses à vous transmettre. Mais voilà, pour un peu faire part de comment je me sens en ce moment, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, pas d'épisode la semaine dernière parce que vraiment beaucoup de travail, 7 jours sur 7. Et si j'avais un petit peu de temps de disponible, je le prenais pour soit ma vie sociale, soit dormir ou me reposer. Donc voilà, on peut toujours dire « j'ai pas eu le temps ». Là, le temps que j'ai eu, je l'ai utilisé à me reposer parce que j'ai vraiment passé... là, 15-20 jours à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis surtout, le « à fond » veut dire beaucoup par rapport à l'état dans lequel j'étais en début de saison 3. Donc, c'est dur de mobiliser autant de ressources finalement si tôt après mon craquage. Donc, y a des choses positives dessus. La première, c'est que je me ressens capable de revenir à 100% de mes capacités et de travail et cognitive. Et Dieu sait que ça fait extrêmement plaisir de vous dire ça. Parce que j'ai douté. Hein. J'ai douté du fait que je ne serais plus jamais capable de travailler aussi bien ou autant. Même si aujourd'hui, la mentalité, c'est peut-être pas de travailler autant, mais surtout aussi bien. Et puis si je fais les choses plus rapidement, je fais les choses plus rapidement. Et voilà, il y a un petit switch qui se passe là, d'arrêter de penser au nombre d'heures travaillées, mais plutôt de penser à la tâche, aux objectifs, à ce que j'ai à faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un gros point sur quels sont mes sujets, quels sont mes projets, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les deadlines. Et donc, ça fait autant de bien que ça stresse, même si du coup, je compense ces 39 points-là par... de l'organisation en me disant, bon, je vais pas faire les 39 points aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui était pas mal, c'est que quand j'ai fait ça, je sais plus, il y a quelques jours, je crois la semaine dernière quand même, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui prend 5 minutes? Qu'est-ce qui est facile, qui est finalement stressant et qui prend 5 minutes? Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, c'est qu'avant, je me disais, qu'est-ce qui doit être fait? Et je fais par degré d'importance. Et aujourd'hui, j'ajoute un degré de stress. Et je fais un ratio entre comment diminuer maximiser la diminution de mon stress par rapport au temps de la tâche. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un mail, un truc qui me prend la tête depuis 3 semaines que je peux envoyer en 2 minutes? Et donc, quand j'ai fait ça, je crois que j'ai enlevé 3 petites cases de ah oui, bon, fallait que j'envoie ce mail, allez, c'est fait. Je crois que c'est des mails, hein, globalement. Je regarde, il y avait un devis à faire et des mails. Donc, bon, en plus, le devis, c'est quelque chose d'assez positif, hein, ça veut quand même dire qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Mais voilà, ça fait partie des choses qui deviennent nouvelles sur ma gestion de mon stress, que je peux vous suggérer, hein, à vous de voir si ça vous correspond. Mais ça a été de plus forcément faire par importance. Mais je vous avais partagé, je crois, un espèce de tableau que je fais sur Excel, qui est un mélange entre le degré d'importance, le degré de à quel point c'est obligatoire, le temps de travail. Et je crois que, je ne sais plus si j'avais mis, mais en tout cas, ce que je rajouterais aujourd'hui, c'est à quel point c'est stressant. Et à partir de là, on pourrait mettre des coefs à des tâches et se dire, bah, ça, certes, c'est une tâche qui n'est pas importante. Par contre, ça me prend la tête, même si vous n'arrivez pas forcément à assigner tout de suite le stress à une tâche particulière, chose qui est mon cas. Hein. Ce n'est pas tout le temps facile de savoir pourquoi on stresse. Mais moi, ma stratégie, c'est de me dire, bon, là, je stresse. Quel est le premier truc que j'ai en tête? Et je pars du principe, qui est peut-être faux, que ce truc-là en tête est une source de stress. Et ça a l'air de marcher plutôt bien. En tout cas, voilà, si vous avez vraiment beaucoup de choses à faire, et bah, il y a peut-être 2, 3 tâches qui prennent chacune 5 minutes, et boum, on passe de 39 points à 36. Donc ça peut être pas mal. Est-ce que je ne me suis pas trompé sur les 39? Je me sentirais mal de faire un mauvais calcul dès le début et de me baser dessus. Je crois que j'avais fait 13 fois 3, non, c'est bon, hein? C'est bon. Voilà, merci pour le bac plus 6, je sais faire 3 fois 13. Et les fléchettes, voilà, jouer aux fléchettes aussi pour améliorer vos capacités de calcul, ça marche bien. Le 3 x 13, je crois qu'il vient plus des fléchettes que du bac plus 5. Bref, donc voilà, pour le stress, ça me fait aussi penser que il y a une nouvelle gestion. En fait, je pense que j'avance beaucoup sur mon stress et mon autogestion. Et finalement, j'ai peut-être un peu plus de choses à dire que ça. Et en plus, c'est des choses que je pense qui peuvent vous être utiles. Et je pense que je l'ai assez rabâché, mais j'aimerais transmettre des choses plus utiles que raconter ma vie, même si c'est le propre du podcast d'expliquer mon parcours. On parle de parcours de soins chez les patients, mais il pourrait y avoir un parcours de thèse. Et voilà, ça fait partie du jeu. Donc le sujet, c'est que en faisant là ce gros truc avec tous les objectifs, les 13 sujets, les 39 points, je me suis aussi dit que ce qui me stressait, c'était bah, justement d'avoir un peu tous ces dossiers en tête en même temps. Et il y a un grand sentiment de vide, un grand sentiment de vertige face à ces trucs-là. Et on se dit, tiens, je ne vais pas y arriver. Soit je ne vais pas y arriver dans les temps, soit j'ai trop d'idées partout. Un espèce de stress de comme s'il y avait 10 personnes qui vous criaient dessus en même temps. En tout cas, dans ma tête, ça, je le ressens un peu comme ça. Et où je me dis, oh là là, je perds pied, quoi. Et la meilleure manière de le faire, c'est, je sais plus si je l'ai dit dans un autre épisode, mais c'est de faire un jour une tâche. Et alors j'ai malheureusement arrêté d'écouter mes épisodes, ce qui fait que j'oublie un peu ce que j'ai dit. Donc j'espère que je me répète pas trop. N'hésitez pas à me le dire en tout cas, et je referai attention à quel point je me répète. Mais ça fait partie des craintes pour enregistrer un nouvel épisode. Je me dis, tiens, à quel point je me rabâche ou pas. Mais du coup, j'ai adopté la méthode de faire un jour une tâche, un jour un sujet. Et ça marche plutôt bien parce que ça me laisse un peu la liberté de me plonger vraiment dans mon sujet. Ça paraît peut-être archaïque, mais c'est peut-être très dépendant de ma manière de fonctionner et de là où j'en suis. Mais en fait, quand vous avez plusieurs dossiers qui viennent d'un coup, qui devraient rapporter de l'argent et dont la deadline est proche, eh ben c'est très difficile, par exemple. On va prendre un cas simple. Le contexte dans lequel je me suis retrouvé, c'est, imaginons, on est le 1er novembre et j'ai 5 dossiers à rendre le 15 novembre. Soit je fais dossier par dossier, mais peut-être que le cinquième dossier, je le commence le 13 novembre, soit je commence tous les dossiers en même temps et au moins j'ai l'impression d'avancer le plus rapidement possible sur chaque dossier. Et en fait, la première solution a l'air, en fait, peut stresser. En fait, les deux solutions peuvent stresser. C'est-à-dire que si on avance un peu sur tous les dossiers, eh ben, on a ce truc un peu d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses, beaucoup d'infos, et que c'est fatigant et que c'est stressant par la charge mentale, la charge cognitive. Par contre, pour la deuxième version, si on fait sujet par sujet, dossier par dossier, eh ben, certes, on est content parce que le dossier 1, on l'a fini bien avant la deadline, sauf que le dossier 2, on le finit un peu moins avant la deadline. 3, 4 et 5, le cinquième, on le finit bah, limite la veille. Et donc, il faut un peu avoir les reins solides de se dire non, je sais que je vais y arriver. Et je sais que même si je prends le dossier 5 un peu à la dernière minute, mais juste parce que bah, je gère mon temps comme ça va bien se passer. Et en tout cas, alors peut-être que d'autres conditions mènent à d'autres solutions. Mais moi, là, j'avais l'opportunité de au moins faire bah, un jour un dossier. Quitte à, bah, quitte à alterner quand même les dossiers, mais en tout cas faire plusieurs dossiers, si c'est possible. Faire plusieurs dossiers dans une journée, c'est fatigant et c'est stressant. Donc voilà, c'est une des solutions que j'ai trouvées et qui marchait plutôt bien. Surtout que, en fait, ça permet aussi de se rassurer vis-à-vis de l'avancement des dossiers. Parce que bah, quand on commence et qu'on fait toute une journée sur un dossier, donc. Bon, je vais être plus précis, par exemple, un dossier, ça peut être faire un diaporama pour, enfin, faire des diapos pour un cours qui a lieu dans 3 semaines. Et donc, soit on fait aller tous les jours ou tous les lundis 1 heure de diapo et puis on finira par y aller, soit on se met une claque et pendant un jour, on se dit aujourd'hui, je finis ça. Et en fait, faire cette solution aussi, ça nous expose à pouvoir profiter du fait qu'on a jugé. Qu'on a mal jugé le temps alloué pour faire une tâche, ce qui fait que, et c'est ce qui est arrivé là ces dernières semaines, si je pense que pour préparer les diapos d'une formation, il va me falloir 4 jours pleins, et que bah, je m'y mets à fond, et en fait en 3 jours pleins j'ai fini, et bah, j'ai gagné un jour. Là où cette différence-là se joue moins quand on fait plein de dossiers dans la journée, parce qu'on finit par un peu tout compenser l'avance qu'on pourrait avoir. En tout cas, c'est vraiment l'expérience que j'ai pu avoir cette semaine, ces 2 dernières semaines, avec bah, voilà, du travail en flux tendu. Et en plus, le fait de se mettre en position de travailler sur un sujet pendant une journée, eh bah, je trouve qu'on a beaucoup plus de jus pour travailler plus longtemps. Encore une fois, travailler plus longtemps n'est pas la métrique suffisante. Mais en fait, travailler plus longtemps, c'est aussi. Le faire parce qu'on a envie et parce qu'on est à fond dans la tâche. Parce que faut quand même pas oublier que bah, j'aime bien ce que je fais. J'aime particulièrement faire des diapos, hein, réfléchir à comment transmettre les connaissances. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Peut-être un peu moins présenter les cours, mais je pense que c'est surtout parce que présenter les cours, c'est stressant. Et il y a un côté bah, incontrôlable de comment c'est reçu et comment la dynamique de groupe va se créer, même si en fait quand je stresse plus, je suis très content de transmettre, mais je crois que ce qui me fait vraiment, enfin d'autant plus, pas vraiment, d'autant plus kiffer, c'est préparer, c'est un peu l'ingénierie pédagogique. Et donc, je me suis perdu, j'aime bien faire des diapos. Ok, c'est la première fois que j'ai dû faire pause et réécouter 10 secondes en arrière pour voir ce que je voulais vous dire. Donc, je parlais d'une tâche un jour. Pour dire que justement, quand on aime ce qu'on fait, et c'est là les wagons que j'ai perdus, quand on aime ce qu'on fait, et bah, si on est à fond et qu'on n'est pas loin de finir une tâche, et bah, on a la capacité de travailler un peu plus. Là où, si un lundi je veux travailler sur 4 dossiers et que je finis le troisième dossier à 16h, et bah, recommencer un nouveau dossier à 16h, c'est très fatigant et des fois, ça fait partie des fois où je m'en veux, je me force et je suis pas dedans, etc. Alors que si on fait un dossier de 9h à 19h, et bah en fait, ça va beaucoup plus parce que quand on est, par exemple, pour préparer des diapos, quand on n'est pas loin de la fin à 1 ou 2 heures près, c'est beaucoup plus simple de continuer 1 ou 2 heures plutôt que d'arrêter et de prendre un nouveau dossier. Donc voilà. Penser à faire un jour une tâche le plus possible, c'est quelque chose qui marche bien avec moi. En tout cas, vous pouvez tester pour vous. Tant qu'on est dans la rubrique gestion du stress, j'ai un nouvel outil aussi qui me fait beaucoup de bien et que je peux vous transmettre. En fait, je vais commencer par vous expliquer une de mes craintes qui vient de nulle part quand je fais de la formation. C'est la peur de faire trop court. Je ne sais plus non plus si je l'ai déjà dit, mais je suis obsédé par le fait de faire un cours trop court. C'est-à-dire que si on me paye pour faire un cours de 3 heures et que je fais 2 heures, ça me stresse de le faire. Alors que fondamentalement, on s'en fiche un peu, tout le monde s'en fiche. Enfin, faut pas que je fasse 1 heure pour 3 heures, mais encore, même si ça arrive, bah, les commanditaires seront pas contents et voilà. Enfin, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais comment je l'appréhende, c'est quelque chose de qui est la fin du monde. Alors, je pense que en fait, la raison à ça, c'est que je réfléchis tellement à la conception du cours que je me dis bon, la dernière variable pour prouver que je suis un bon prof, parce que c'est ça qui est mis en jeu, hein, c'est de tenir le temps, parce que je sais que le cours est bien pensé. Maintenant, la dernière variable, c'est est-ce qu'il dure assez longtemps? Et je crois que je me suis. Enfin, je sais pas que je crois, je me fixe beaucoup trop sur cette variable qui finalement n'est pas importante, n'est pas pertinente, parce que je pense qu'elle n'est pas du tout corrélée à la qualité d'un cours, voire elle est décorrélée, parce que je pense qu'un prof qui se permet de lâcher ses élèves avant, soit il est très très nul, soit il est assez bon pour se dire bah, je vais pas meubler. J'ai dit ce que j'avais à dire, donc je lâche les personnes et c'est pas grave. Alors que quelqu'un qui fait tout le temps 3 heures, bah, on ne sait pas s'il a meublé ou si juste il lit son cours et que c'est toujours tellement linéaire parce que pas vivant, donc sûrement un peu chiant, que bah, les personnes continuent toujours les mêmes cours qui font toujours 3 heures et comme ça ils se protègent de ce petit pic à l'estime de soi de se dire je suis pas capable de parler 3 heures sur ce sujet. Parce que c'est ça le sujet fondamental, hein, qui est peut-être qui sera peut-être ridicule à vos yeux, parce que même moi je le trouve ridicule, mais c'est de se dire, bon, je suis pas capable, je suis psychologue, et je suis pas capable de faire un cours de 3 heures sur tel sujet. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais je crois que je commence enfin à enterrer un peu cette crainte. Donc voilà, pour les doctorants qui font des premiers cours, bah, je sais pas si ça peut être intéressant. Mais en fait, j'ai réorienté mon attention sur des objectifs plus clairs en répondant à une métrique sur la manière de se poser des objectifs que je voulais vous transmettre. Mais juste pour vous dire ce que là où ça aboutit, c'est que j'ai enfin fait un cours vendredi dernier. Donc là, nous sommes dimanche, donc ouais, il y a 2 jours. Oui, je suis un peu perdu dans les jours vu que j'étais en travail un peu tout le temps. Je suis un peu perdu. Mais. Et bah, j'ai lâché mes étudiants 20 minutes avant la fin et j'étais beaucoup moins embêté, beaucoup moins stressé que ce que j'aurais pu être. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui part de tout ou rien, enfin hein, qui part, pardon, c'est pas français du tout. Évidemment, c'est pas une crainte qui va être évincée du jour au lendemain par une petite méthode, mais presque quand même. C'est-à-dire que quand je les ai lâchés 20 minutes avant, je me sentais un peu mal, mais beaucoup moins mal que ce que j'aurais pu, que comment j'aurais pu me ressentir avant de penser à cet outil et d'avoir un petit peu switché ma manière de voir les trucs. Alors voilà pour le teasing, qui était riche en fautes de syntaxe. Mais l'outil, c'est que un objectif doit répondre à plusieurs critères. Alors moi, je connaissais la structure SMART, donc ça doit être spécifique, mesurable, et je me suis lancé alors que j'ai pas de notes. Spécifique, mesurable, A, réaliste et temporel. Et le A, il me reviendra peut-être. Mes excuses pour ceux qui l'ont et qui me trouvent nul. Il m'est sorti de la tête. Mais en tout cas, là, c'est un autre outil mais qui ressemble et en fait que maintenant je vais utiliser. En fait, moi, je pensais que toutes ces outils-là, c'était pour placer un projet, c'est-à-dire qu'un projet doit être spécifique, mesurable. Je me suis lancé justement en espérant ressortir le A, mais non, il est toujours pas là. Donc, spécifique, mesurable, réaliste et temporel. Ok, j'ai fait une petite pause. Le A, c'est atteignable, donc un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais que déjà j'utilisais uniquement pour les projets, c'est-à-dire que pour définir un projet, quand on vient vers vous, il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, etc. Mais l'avancée que j'ai faite, c'est que déjà ce genre de choses peuvent être mises par rapport à l'objectif qu'on se donne proprement sur un sujet. Par exemple, j'ai compris que mon objectif était tout le temps de faire la meilleure formation possible. Et en fait, ça, c'est pas un objectif qui est bien défini. En fait, au lieu de la structure SMART que vous pouvez quand même utiliser, j'ai une autre structure qui s'appelle RAPTMER. Et donc, j'applique cette méthode en me disant que un objectif doit être de mon ressort, donc c'est le R, à l'affirmatif, précis, temporel, mesurable, écologique et réaliste. Alors, pour définir un peu plus, un objectif doit être associé, ne doit dépendre que de vous ou principalement que de vous, doit être tourné à l'affirmatif, donc c'est pas ne pas faire, mais c'est plutôt faire ceci, doit être précis, il doit être temporel, il doit être mesurable, on peut le mesurer, doit être écologique, c'est-à-dire correspondre à vos valeurs, à qui vous êtes, à l'énergie que vous avez, à ce que vous aimez faire, et réaliste. Et en fait, quand j'ai remis cette méthode-là, non plus sur mes projets, mais plutôt sur ma position au sein de mes projets, eh ben, j'ai eu un gros déclic en me disant, bon, pourquoi je veux tenir 3 heures? Ça peut être un objectif. Mais le truc sous-jacent, c'est parce que je veux que ma formation soit bien. Et sauf que faire une bonne formation, c'est pas du tout un objectif qui est précis, ni mesurable, ni bah si c'est peut-être réaliste, mais c'est ni précis ni mesurable. Et en fait, quand je reviens à pourquoi j'avais pris ce critère-là, déjà le fait qu'une formation dure 3 heures ou qu'une formation dure 2 heures, étant donné que je fais en sorte que mes formations et mes cours soient vivants, et bah c'est pas contrôlable. Donc c'est pas forcément de mon ressort de faire un cours de 3 heures parce que, et je vous l'ai déjà dit ça, je le sais dans d'autres épisodes, on prévoit des activités, on pense que ça va durer 1 heure, mais ça va durer une demi-heure, et inversement. Des fois ça dure 10 minutes alors qu'on a prévu 40. Et donc, il peut très bien y avoir des jours où un cours de 3 heures prend 2 heures. C'est ce qui m'est arrivé. Mais je l'ai bien vécu parce que, du coup, au lieu de me dire je veux que mon cours dure 3 heures, ce que je veux vraiment, c'est transmettre des bonnes informations. Et en fait, quand on va dans le champ de je veux transmettre des informations pertinentes, là, c'est quelque chose qui est de mon ressort parce que c'est moi qui sais ce que je dis. C'est à l'affirmatif, donc je veux transmettre telle information. C'est précis parce qu'au lieu de dire je veux transmettre de bonnes informations, on peut dire bon, je forme sur ce sujet aujourd'hui, voici les grandes idées que j'ai envie de transmettre. C'est temporel parce que bah, là, c'est facile, hein. Aujourd'hui, il faut que j'ai dit ça, ça, ça. C'est mesurable parce que je peux faire une liste exhaustive des informations, des grands points que j'ai envie de transmettre et donc je peux dire bah, j'en ai transmis 4 sur 5, 3 sur 5, où j'ai tout transmis. C'est écologique parce que bah, ça, il faut que ce soit un peu opérationnalisé, mais c'est écologique dans le sens où ça me remet la tête dans transmettre de bonnes informations et être pertinent vis-à-vis des personnes. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup plus coûteux. Et puis voilà, éthiquement, il n'y a pas de barrière, etc. Là, l'écologie, c'est peut-être un peu moins pertinent dans cet exemple, mais il est très important. Et le réalisme, bah, c'est assez, bah, là, c'est à moi de définir. Si je dis j'ai envie de transmettre 45 idées en 2 heures, c'est pas réaliste. Par contre, voilà, j'ai envie de transmettre 5 ou 10 idées en 2 heures, c'est un peu plus réaliste. Et en fait, encore une fois, c'était un déclic. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais en fait, il y a des outils simples. Quand on vous le dit de la bonne manière, au bon moment et sur le bon sujet, et bah, ça fait un déclic. Donc moi, ça m'a fait un déclic sur, ouais, en fait, je peux vraiment avoir ce cadre-là à chaque fois que je stresse pour quelque chose. Et bah, en fait, j'ai remarqué que le stress venait du fait que j'avais un objectif personnel qui rentrait pas dans ces lettres-là. C'est-à-dire que soit c'était pas réaliste, soit c'était pas écologique, soit c'était pas de mon ressort. Et quand maintenant je m'imagine aller dans des événements qui potentiellement me stressent et que je redéfinis des objectifs qui rentrent dans RAPTMER, eh ben je me sens beaucoup mieux. Donc là, pour l'histoire de finir un cours plus tôt, eh ben, je savais ce que je voulais faire. Donc mes objectifs, c'était pas de juste être le meilleur prof de tous les temps, parce que c'est pas précis et pas réaliste, etc. Mais c'est plutôt de dire, bah, déjà, je dois y aller. mais bon, on va dire que c'est un premier niveau. Et après, j'ai envie de transmettre cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là. Et je les ai marqués sur une feuille. Et bizarrement, c'est venu le jour où, en effet, mon cours était un peu plus court que d'habitude. Et à partir de quand il restait encore quelque chose comme 45 minutes, je me suis dit, oh là là, je deviens court là, j'ai plus grand-chose à transmettre. Mais je me suis rappelé, j'ai regardé ma feuille, j'ai dit, bah, il y a cette idée-là et cette idée-là que j'ai pas encore mis en avant. Donc je pose des questions, je mets ces idées en avant. Et puis, il reste 20 minutes et je regarde ma feuille, j'ai tout dit. Les gens ont l'air d'avoir compris. Donc je leur dis, bon, bah écoutez, je vous ai transmis tout ce que je voulais vous transmettre, vous pouvez partir. Et là où je pense que j'aurais été abattu, eh bah, j'ai eu certes un petit goût amer, hein, parce que comme je l'ai dit, du jour au lendemain, je ne vais pas totalement ab abandonner cette pression nulle de durer longtemps en formation. Mais je l'ai quand même bien vécu, parce que en effet, j'ai répondu à mes objectifs. On était un vendredi après-midi, donc autant vous dire que les étudiants finirent 20 minutes plus tôt, c'était juste positif pour eux. Et puis si moi j'ai transmis mes objectifs et que eux sont contents, je vois pas pourquoi je me serais embêté à meubler 20 minutes de plus. Donc voilà, après, il y a très souvent des objectifs qui sont contractuels, hein. Je vais avoir une formation sur le burn-out, je peux pas faire une formation qui dure 5 heures au lieu de 7. Mais franchement, à 20 minutes, même 30 minutes, et même sur une journée, une heure près, si c'est justifié, et si je suis capable de dire à l'organisme de formation avec lequel je suis associé, bah oui, ça a duré une heure de moins parce que ça, mais j'ai eu le temps de transmettre tout ça. Par contre, bah voilà, le travail de groupe, il a été plus rapide. Sincèrement, je pense que peu de gens me diraient quelque chose de négatif à ce sujet, surtout que. Et bah, on peut faire court la première fois et se dire, bon, bah ok, bah écoute, si t'as mal jugé le temps de ton exercice, tu rajoutes un sujet et voilà. Donc, franchement, je pense que les organismes de formation, je parle de sujet parce que c'est quelque chose qui peut me stresser, hein, être associé à un organisme de formation, faire trop court et qu'on me dise, qu'on me dise, t'es un mauvais prof, t'as vu ton cours, il a duré 2 heures de moins, blablabla. Ça fait partie des craintes qui sont pas très objective, mais ça rentre en tête et on a un peu peur, hein. Je pense que c'est le goût de bien faire, donc ça reste positif. Mais voilà, quand je pense à cette crainte-là, mais je me dis, bah, ceux qui s'énervent parce que je fais une heure de moins et qui, je sais pas, rompent mon contrat, bah, c'est finalement des gens avec qui je veux pas travailler parce que s'ils sont attachés par le nombre d'heures et qu'ils sont pas capables de dire, de m'écouter et que je leur dise, oui, c'est vrai que là j'ai fait plus court, mais je vous propose de rajouter un exercice. S'ils me virent dès la première fois, et bah, c'est que finalement, j'aurais eu des problèmes avec cet organisme de formation une autre fois. Et que du coup, il me reste que les bons. Et les bons comprendront que soit la réponse des objectifs pédagogiques est plus importante que le temps, ce qui fait que bah, ils me diraient rien. Soit au pire des cas, je dis oui, c'est vrai que je fais plus court. Et bah, je vais réfléchir à un exercice supplémentaire pour tenir dans le timing pour lequel on a signé. Voilà. Donc, ce cadre-là. Le ressort, l'affirmatif, objectif précis, temporel, mesurable, écologique et réaliste marche très très bien chez moi et je vous le conseille si jamais vous êtes un peu stressé comme moi et que, parce que je pense que c'est la deuxième condition, et que ce stress vient du fait que finalement vous avez un objectif d'être bon, d'être le meilleur, pas le meilleur parmi les autres, mais le meilleur parmi soi-même. Moi, je veux être la meilleure version de moi-même, mais pas forcément le meilleur dans la salle. Mais sauf que la meilleure version de moi-même, ça ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, je pense que je partais déjà vaincu parce que les objectifs étaient irréalistes, pas de mon ressort ou pas précis. Et donc, quand on va, je vais donner un autre exemple justement qui me permet de faire une annonce. Alors, annonce. Je peux enfin vous dire que j'ai gagné le prix Pépite 2024 régional dans le Pépite j'allais dire de ma juridiction, mais non de ma région. Oui, donc je suis lauréat régional, donc voilà, dans le Pépite de ma région, à Reims, j'ai le prix Pépite régional et donc c'est associé à une somme de 2 000 euros. qui m'a gentiment été, j'allais dire offert, mais donné, puisque j'ai gagné, donc je ne sais pas si c'est un cadeau. Mais oui, c'est bon, bref, ça m'a été donné. Qui m'a permis d'acheter un PC, un très bon PC, et j'en suis très content. Eh bien, il y a eu cette remise des prix. En fait, c'est un prix que j'ai gagné je sais même plus, je crois en juillet ou en septembre. Et ça n'a pu se faire, la remise des prix officielle n'a pu se faire qu'en novembre. Donc, je peux enfin communiquer. J'ai eu l'honneur de me voir attribuer un trophée déjà et un vélo qui m'a été offert par Transdev. Alors, je dois peut-être pas le dire, mais bon, ils le font aussi pour de la communication et j'ai rien de négatif à dire sur eux. Donc, on verra si Transdev me traîne au tribunal. Mais justement, j'ai apprécié le cadeau. C'était un cadeau supplémentaire à donner à l'un des lauréats. Donc, on était quatre. Et voilà, Transdev m'a choisi moi pour me fournir un très joli vélo non commercialisé. Donc, c'est un peu prestigieux dans l'idée de se dire que bah, j'ai quelque chose que peu de gens ont, quelque chose de rare. Et donc, en allant à cette remise des prix, je l'ai déjà transmis dans ce podcast, mais je fais pas partie de ceux qui sont le plus à l'aise avec les événements de réseau, même si je vous ai déjà partagé beaucoup de choses, que je sais un peu mieux déterminer quel événement peut me convenir et y aller dans quelles conditions, hein. Souvenez-vous, je vous ai dit... est-ce que l'objectif c'est de faire des rencontres ou non? Et est-ce que vous connaissez des gens ou non? Et est-ce que ça vous est utile ou non? Et après, vous décidez si vous y allez ou pas et si vous y allez avec quelqu'un ou pas. Là, en l'occurrence, c'était quelque chose qui me concernait moi. Donc, je connaissais des gens, je savais pourquoi j'y allais. Donc, c'est pas quelque chose qui était très stressant, même si bah, il y a toujours un petit stress parce que bah, c'est tout, c'est pas spécifiquement mon truc. Mais ce stress s'est totalement éteint quand je me suis mis le cadre RAPT MER et que j'ai redéfini mon objectif. Là où j'allais dans les événements comme ça en disant bon, il faut que je vende bien mon truc, il faut que je sois un bon communicant. Eh ben, j'ai fait quelque chose qui rentre plus dans le cadre des règles pour se poser un objectif. Et donc, j'ai déterminé les objectifs de y aller, de sourire sur la photo et de répondre cordialement aux questions qu'on me pose. Voilà, ce sont des choses qui sont de mon ressort, qui sont affirmatifs, qui sont précis, temporels, mesurables, écologiques parce que ça m'allait. J'avais sincèrement pas envie d'être plus extraverti, plus le meilleur communicant qu'autre chose, à part répondre cordialement aux questions et sourire quand on m'offre 2000 euros. Et c'est totalement quelque chose de réaliste, hein. C'est même peut-être un peu en dessous de certaines exigences, mais j'avais pas beaucoup plus à donner. Et donc, en me donnant ces objectifs, ça m'a déstressé, ça m'a dédouané d'une certaine pression de être le meilleur partout, tout le temps, être la meilleure version de moi-même. Et finalement, eh ben, je crois que j'étais une belle version de moi-même parce que bah, j'y suis allé déstressé. Déjà, juste en passant la porte, j'avais un tiers de mes objectifs qui étaient passés. Et donc, je me suis senti beaucoup plus ouvert à discuter avec les gens, à répondre aux questions. Et finalement, je pense que c'est plus échangé que si je m'étais donné comme objectif de, je sais pas, parler à tout le monde ou être bon dans mes réponses, etc. Donc là, il y a quand même le fait que l'objectif était mis en dessous, mais il y a aussi le fait que bah, il a répondu à des critères précis qui sont assez positifs. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup sur mon stress. Si ça peut vous aider aussi, eh bah, je serais content que ça soit le cas. Voilà pour la plupart des choses que j'avais à vous dire. J'ai encore quelques éléments et je pense que ça ressemble à une rubrique, mais bon, je pense que je vais pas le mettre en rubrique, mais j'ai envie de vous parler du futur, de ce que j'envisage de faire dans les prochains temps. C'est pas du tout le moment, mais je vais peut-être faire des, c'est pas des annonces, mais c'en est peut-être. C'est peut-être des annonces de 2025, de ce que j'ai envie de faire, de la suite. Je pense que c'est assez positif quand mon cerveau se projette vers la suite, c'est qu'il est assez déstressé. Donc, j'ai déjà envie de faire plein de choses en 2025 et j'avoue que j'y pense déjà parce que mon agenda est déjà quasiment complet jusque fin 2024. Bah, finalement, les prochaines nouvelles choses que je veux faire en 2000, enfin, que je veux faire tout court, ça se place tout de suite en 2025. Et donc, j'ai déjà des projets Et voilà, je réfléchis pas mal à la suite. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces 15 derniers jours et que là, je sens enfin que c'est la fin de cet élan qui me permet de finir l'année un peu plus tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est normalement, hein. C'est-à-dire avoir tout ou partie de mes week-ends et ne pas travailler trop tard la semaine. Du coup, je me projette sur la suite. C'est ce travail-là que j'ai beaucoup fait a quand même mené au fait que mon alimentation et mon sport étaient moins, j'étais moins régulier dessus. J'ai pas pris un peu de poids, mais voilà, je sens que physiquement, il y a 2 petits kilos qui ont été pris. C'est pas grand-chose, mais bon, voilà, je suis assez strict vis-à-vis de mon apparence physique, donc ça me touche un peu. Donc voilà, sur le futur, je me souhaite quand même de reprendre le sport, de reprendre la marche et potentiellement les bonnes habitudes. Sachant que j'en ai très peur, hein. Je sais que une partie de ces bonnes habitudes sont la cause du craquage de la fin de saison 2, début de saison 3. Bon, il y a eu un événement perso hein, aussi, je pense que vous l'avez compris, qui a été la goutte d'eau, mais je me rends compte quand même du processus dans lequel je me suis mis. Qui était de me donner trop d'habitude, mais aussi de ce que je vous ai dit. J'espère que vous l'avez compris en même temps que moi, parce que ça commence à faire longtemps que j'en parle et que vous me voyez évoluer. Que c'est pas forcément le nombre d'habitudes qui peut causer à la perte, mais c'est plutôt la manière de le voir. Et je pense que par rapport aux nouvelles habitudes, je pourrais peut-être essayer d'appliquer mon nouveau cadre, là, RAPT-MER, parce que je pense que c'était pas ni réaliste ni écologique. C'était réaliste quand même parce que j'ai réussi à les faire, ces bonnes habitudes. Mais c'était pas écologique dans le sens où est-ce que j'avais autant d'énergie pour faire autant de bonnes habitudes d'un coup? Et c'était pas temporel. Et puis voilà. Mais j'aimerais bien quand même parce que finalement je me sentais bien hein, sur le début d'année 2024 avec les bonnes habitudes, bien marcher, enfin bien marcher, beaucoup marcher. Faire du sport, bien manger, méditer. J'étais quand même dans une ambiance générale assez positive et puis assez forte en estime de soi parce qu'on se dit ah, c'est cool, je fais plein de trucs, je me sens bien. Je me sentais quand même bien hein, en fait. Le problème, ça a été d'en rajouter et peut-être de le faire pour les mauvaises raisons. Et c'est là où le côté écologique revient, c'est de se dire pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais juste pour être le parfait petit entrepreneur? Est-ce que je ressens les effets de ce que je fais? Si au bout de 3 mois de méditation tous les jours, je ne ressens pas des effets, pourquoi je continuerais? Voilà, j'aimerais bien me projeter en 2025 vers une reprise des bonnes habitudes, mais de manière plus réaliste sur le long terme et qui me m'aide réellement. Donc je vais y réfléchir, mais essayer de retrouver un plaisir dans l'évolution personnelle sans retomber dans les travers dans lesquels je suis tombé. Donc ça, c'est une grande question à laquelle je n'ai pas de réponse. Comment reprendre des bonnes habitudes sans recraquer et juste se remettre de la charge de travail perçue? Ouais, je trouve que c'est le bon terme, charge de travail perçue, parce que, et justement, c'est un peu le déclic qui arrive en ce moment, c'est... Je pense que je vais arrêter de dire que j'ai du travail, par exemple. Là, on est dimanche, j'ai des trucs à faire. Est-ce que c'est du travail? Je ne sais pas, peut-être. D'ailleurs, est-ce que ce podcast est du travail? Bah, en fait, il y a 6 mois, j'aurais dit oui, mais maintenant, bah non. En fait, peut-être que juste j'aime bien le faire. De toute façon, c'est simple, hein. Si tout travail mérite salaire, je ne gagne pas d'argent. Peu d'entre vous, enfin non, non, si, j'allais dire peu d'entre vous m'écoutent, mais justement, tous ceux qui entendent ce message m'écoutent, donc 100% des gens qui m'écoutent m'écoutent, bref, mais je vous l'ai déjà dit, hein, il n'y a pas énormément de personnes qui m'écoutent, et bah, du coup, c'est pas un travail, c'est peut-être une passion, et je pense qu'il faut aussi arrêter, en tout cas moi, là où j'en suis, j'ai le sentiment que tout mettre dans des obligations et tout mettre dans du travail rigide, c'est quelque chose qui me stresse plus. Et donc, je préfère dire que j'ai des trucs à faire. Aujourd'hui, j'ai des trucs à faire. Et c'est potentiellement rémunérateur. Mais vu que je tourne quand même beaucoup de mes activités sur du plaisir, eh ben, voilà, il faut arrêter de se prendre la tête à se dire que c'est du travail, donc c'est dur, donc c'est difficile, donc c'est stressant, donc c'est fatigant. Bref. Donc, projection pour les prochaines semaines ou même pour 2025. Hein, je pense que je vais quand même me laisser assez tranquille jusqu'à fin 2024. Non pas moins travailler, mais juste pas me rajouter des trucs, parce que je pense qu'il y a aussi, bah, il faut se laisser quelques mois pour que je revienne vraiment en bonne santé, hein, parce que là, il y a des sujets de santé qui sont pas réglés. Mais premier point, revenir aux habitudes, au sport. Alors, deuxième point sur mes projections 2025, c'est justement essayer de remettre un peu en avant ce projet, ce podcast. Je le dis, et je le dis honnêtement et en toute transparence, hein, c'est dur de se motiver à faire une heure de podcast. Bon, je fais plus, non, je fais pas une heure. De faire entre une demi-heure et une heure de podcast toutes les semaines. Bon, je fais pas toutes les semaines, mais bref. Justement, j'avoue que c'est dur de tenir le podcast sachant que peu de gens m'écoutent. Ça va faire bientôt un an, hein. En tout cas, je me projette tellement en 2025 que dans ma tête, ça fait déjà un an. Mais ouais, je pense que j'aimerais bien être un peu plus écouté. Du coup, n'hésitez pas à m'aider, hein, à le partager, communiquer, noter sur Spotify. Mais bon, je pense que j'ai beaucoup à faire aussi sur la communication, hein. Je suis même pas très clair sur LinkedIn, sur ce que je fais au quotidien. Les gens pensent que j'ai arrêté le podcast. Les gens découvrent que je fais un podcast alors que c'est marqué sous mon nom. Donc, je suis largement conscient que la responsabilité ne vous incombe pas. En fait, vous n'êtes pas responsable du tout, mais vous pourriez m'aider à partager le podcast. Après, j'avoue que je regarde souvent les écoutes par rapport au dernier épisode, mais ça se trouve, il y a plein de gens qui sont en train de me découvrir et qui sont en train de se taper les premiers épisodes avec un an de retard et qui juste sont en train de binge-watcher tout le podcast. Je verrai, hein, ça se trouve, il y a des gens qui vont m'appeler dans 2 ans en me disant waouh, je viens de découvrir ton podcast et je serai, j'espère, je sais pas, déjà docteur ou PDG d'une multinationale, mais ça, on verra. Mais dans tous les cas, c'est pour ça que je me projette vers 2025 avec une meilleure communication. Il faudrait quand même que j'essaye de mettre des formats courts sur les réseaux. Ça me fait peur, hein, franchement, ça me fait peur parce que j'ai quand même l'impression de sauter dans le grand bain. Il y a quelque chose où je dis oui, en effet, c'est dur de se motiver à faire un long podcast pour pas énormément d'écoute. Mais je suis aussi un petit peu ambivalent parce que je l'ai, hein, la méthode pour avoir plus d'écoute, c'est de m'exposer plus. Mais c'est compliqué d'avoir à la fois ce confort du cocon dans lequel on se met de se dire bah justement pas beaucoup de gens m'écoutent mais que ce soit pas motivant parce que si demain je commence à me mettre sur TikTok à finalement redire un peu souvent sur LinkedIn que j'ai un podcast parce que même les gens de LinkedIn je pense qu'ils l'ont pas tous compris et peut-être que je me sentirais moins à l'aise donc voilà c'est pour ça que je vous donne pas de responsabilité mais j'explique le dilemme dans lequel je me pose. Maintenant, est-ce que j'ai plus peur de m'exposer ou est-ce que j'ai plus envie d'être vu? C'est à moi de voir. Je pense que j'ai pas encore l'énergie et j'ai encore beaucoup de travail pour me projeter sur ça. Mais en 2025, j'aimerais beaucoup plus axer ma communication vers le podcast et vers potentiellement une deuxième version du podcast. Ou en tout cas un hors-série, qui serait, je sais plus si je l'ai dit non plus, mais qui serait, j'ai envie de faire un podcast sur le lien entre l'entrepreneuriat et la recherche avec invité. Donc j'y réfléchis, je vais essayer de tourner, je ne sais pas si j'aurai le temps, hein, parce que ça va vraiment vite les semaines, mais j'aimerais bien tourner le premier épisode avant la fin de l'année pour pouvoir le sortir début janvier et faire voilà, un espèce d'effet d'annonce. Voilà, j'aimerais interviewer des gens qui font de la recherche et de l'entrepreneuriat parce que je crois que c'est un peu ça mon sujet fondamental, hein. Je crois que Bip Bip revient à ça. Je sens que c'est un peu ma spécificité, c'est de faire de la recherche et que potentiellement mon projet, c'est pas former les professionnels de santé, c'est privatiser la recherche ou faire de la recherche en indépendant. Je crois que c'est ça le sujet qui m'intéresse le plus et donc j'aimerais bien me faire du réseau. Et transmettre et comprendre ce milieu-là et vous transmettre un peu comment on peut faire aujourd'hui de la recherche et de l'entrepreneuriat ou alors de la recherche en indépendant, de la recherche privée. Voilà, c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup et j'aimerais bien faire un hors-série dessus. Donc, je me vends pas, hein. Là, on est vraiment dans le building public. Je vous échange mes réflexions, même si c'est déjà lancé, hein. J'ai déjà une idée de mon premier invité. J'ai déjà une validation de mon premier invité. J'aimerais bien le faire en 2025. Il faut que je trouve l'énergie, le temps, et que je enlève mes craintes, tout simplement. Bon, j'ai envie de vous expliquer ce que je pense sur ce sujet. De toute façon, je viens de le dire, vous n'êtes pas beaucoup, donc voilà, vous êtes en avant-première sur mes idées. Puis, si je garde tout pour faire des grandes annonces, eh ben, j'ai plus de podcast non plus. Donc voilà, ce que je compte faire, je réfléchis en fait à comment, déjà, est-ce que le podcast sera filmé ou pas? Et s'il est filmé, en fait, moi, évidemment, que je suis plus à l'aise à l'oral, enfin, sans être filmé. Mais déjà, je pense que ça s'apprend hein, d'être à l'aise devant une caméra. Et en fait, le problème d'être filmé, c'est que est-ce que j'invite les invités quelque part? Mais dans ce cas, niveau logistique, c'est beaucoup plus compliqué. Et même niveau financier, bah, il faut que je loue un studio d'enregistrement et que je me déplace potentiellement parce que les gens ne sont pas tout le temps. Bah, imaginons que les gens ne soient pas en France globalement ou qu'ils soient loin en France. Ça demande du temps et de l'argent, chose que je n'ai pas tout de suite. Ou sinon, il y a une version filmée. Et donc oui, le fait de filmer, bah, c'est intéressant pour la diffusion, hein, les podcasts filmés, que ce soit en format court ou en format long sur YouTube, c'est quelque chose qui marche bien, donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait m'aider à me faire connaître. Mais pour éviter les problèmes logistiques, je me demande si je pourrais pas trouver un moyen de faire des visios de bonne qualité avec, en fait, j'imagine, partager un fond. Enfin, vous savez, on peut faire des visios dans lesquelles on met un fond derrière nous. Et je me demande si je pourrais pas créer des images où mon fond serait quasiment le même fond que l'autre personne, ce qui pourrait nous faire croire qu'on est dans la même pièce, voire qu'il y a un champ contre champ, et d'essayer de faire en sorte que les personnes aient une bonne qualité vidéo pour pouvoir faire un montage où on a l'impression qu'on est en physique. C'est mon idée. Je suis peut-être en train de vous donner une idée qui est potentiellement monnayable, parce que je pense que ça peut répondre à beaucoup de problèmes pour ceux qui veulent faire des podcasts. Mais donc, ce que j'aimerais faire, c'est imaginer un fond de podcast et que, en fait, la personne chez elle, en plus du micro, s'enregistre avec son propre téléphone, parce qu'aujourd'hui, les micros des téléphones sont très bien, pour avoir une qualité audio largement supérieure à si j'enregistrais, je ne sais pas, la visio, et voir comment m'assurer qu'ils aient une bonne qualité de caméra et qu'ils chargent un fond qui est similaire au mien pour voilà, donner l'impression qu'on est dans la même salle. Je réfléchis à ça, ça pourrait être intéressant et je pourrais avoir quelque chose de qualité mais à distance et du coup allier la richesse du contenu et la facilité logistique. Voilà mes réflexions sur ce podcast-là. Il faut que je trouve un nom. Je ne sais pas, je crois que j'ai eu l'idée d'un nom, c'était Le Bateau, parce que j'ai l'impression que la recherche en indépendant et l'entrepreneuriat dans la recherche ou la recherche dans l'entrepreneuriat, c'est comme un bateau dans lequel il faut sauter. On est tous un équipage assez restreint et que c'est un peu une aventure dans laquelle il faut aller. En tout cas, j'ai le sentiment, il y a des gens qui font ça depuis 10 ans, 15 ans, mais j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de vent qui mène beaucoup de gens de mon âge à commencer à réfléchir, à se dire mince, vraiment la recherche dans le public, il y a des limites. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour faire de la recherche, de l'entrepreneuriat ou de la recherche en indépendant? Et que ce saut dans le vide, ce saut dans l'océan de difficultés qu'est de faire de la recherche et de l'entrepreneuriat, eh ben, ça peut être matérialisé comme un bateau dans lequel je vous propose de monter et qu'on essaye de. Et dans lequel qu'on essaye de naviguer dans les eaux troubles de ce projet-là qui peut nous être similaire. Voilà, il y a un peu cette métaphore-là qui m'intéresse. Donc, sinon, c'est un train, mais voilà. J'aimerais en faire un hors-série et qu'on puisse avoir des gens super intéressants qui ont déjà sauté le pas, qui ont déjà sauté dans le bateau. Voilà mes réflexions sur ce podcast. Donc, faire ce podcast, potentiellement le filmer, en faire des formats courts et voilà, améliorer un peu ma communication sur ce projet que j'aime bien. Hein. Pour l'instant, c'est limite pour moi. C'est pas inscrit dans mon modèle économique, même si ça pourrait. Mais voilà, c'est dommage, hein, je lâche entre une demi-heure et une heure, j'allais dire par mois, mais vu que là, je suis pas forcément toutes les semaines, allez, je lâche 2 heures de contenu, 2 heures de contenu par mois sur des plateformes et je m'en sers pas. Et puis même, je suis pas beaucoup écouté, alors que ça pourrait m'intéresser, hein, parce que j'ai vraiment ce qui est fondamental derrière ce podcast, c'est que c'est compliqué pour moi de faire ma thèse et de la financer. Et on me demande de plus en plus comment je fais, et j'essaye justement d'expliquer comment je fais, comment je l'ai vécu. Et j'ai tellement envie de créer cette histoire, de vous expliquer pendant X années comment j'ai fait ma thèse et de pouvoir même pour moi regarder derrière et me dire, bah voilà, j'ai documenté toute cette thèse. Je trouve que c'est un projet, bah, moi, qui m'aurait grave intéressé de suivre. Donc, j'ai envie de livrer ça. Et c'est pour ça que, bah, on va pas se le cacher, être un peu plus écouté, ça me ferait plaisir. Bon, je ne vais pas vous dire ça à chaque fois, parce que ceux qui m'écoutent, vous allez vous sentir mal, alors que vous êtes, justement, vous êtes la base solide de mes auditeurs. Et donc, c'est vrai, au lieu de vous dire que vous n'êtes pas assez, eh ben, j'en profite pour vous remercier de m'écouter et de me suivre, hein. J'ai quand même des messages de gens proches qui me font des retours et que je sais que vous m'écoutez. Donc, ça fait plaisir, hein. Je sais, entre 0 et 10 personnes, c'est un pas énorme, hein, de quand même se sentir parler à quelques personnes. Donc, merci d'être encore là et j'espère vous fournir encore du contenu intéressant pendant longtemps. Voilà, pour 2025, nouvelle communication, nouveau podcast, reprendre de bonnes habitudes. Me remettre un peu plus sur LinkedIn parce que là même un poste par semaine j'y arrive pas, donc peut-être me remettre un poste par semaine sur LinkedIn. En tout cas, je vais revoir tous ces objectifs vis-à-vis de RAPT, MER, voir comment ça peut marcher pour pas me faire craquer. J'aimerais développer aussi mes formations et mon réseau sur et puis même le réseau pour la thèse sur l'environnement kiné-ostéo, parce que je sais que c'est un sujet où le relationnel et le lien entre le relationnel et l'observance, l'application des recommandations est très pertinent. Donc voilà, 2025, j'aimerais m'étendre un peu du côté de kiné-ostéo. Et de la même manière, j'aimerais voir comment développer une nouvelle formation DPC. C'est le système qui rembourse les professionnels de santé pour être formés. Il va y avoir des nouveaux sujets de formation remboursables et donc moi en 2025 va falloir que j'ai un nouvel élan de démarchage ou en disant à des organismes de formation je peux assurer tel sujet, tel sujet, tel sujet parce que c'est quand même le modèle économique assez stable qui commence à marcher. C'est que je me suis inscrit dans des attentes institutionnelles qui disent bah, tel sujet peut être remboursable. Je suis associé à un organisme de formation qui me trouve des professionnels de santé et qui leur dit bah, signez en bas, vous serez remboursé et vous êtes formé sur tel sujet. Donc ça, c'est un petit peu un cercle vertueux dans lequel je pense qu'il faut que je continue à m'inscrire. Mais voilà, c'est objectif 2025. Et voilà, ce n'est pas une annonce, mais il faut aussi que je travaille avec une structure qui m'a proposé d'envisager, hein, c'est pas une annonce, qui m'a proposé d'envisager de faire un webinaire sur la confiance. Donc en 2025, il va falloir que je prépare quelques diapos et construise un webinaire d'une heure en me disant comment je peux transmettre la confiance et créer quelque chose d'une heure d'assez solide pour pouvoir le vendre plusieurs fois. Donc ça, c'est un peu mes pistes de 2025. Voilà, je crois que je vous ai dit ce que j'avais en tête. Comme souvent, moins j'ai l'impression de vouloir dire des choses, plus j'en dis. Ça doit être l'épisode le plus long de la saison 3. Voilà, j'espère que j'étais intéressant, que ça n'a pas ressemblé à quelque chose de trop diffus ni de trop meublé. Bon, de toute façon, meublé, là, pour le coup, j'ai pas d'heure à tenir. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à le partager à des amis, à mettre des étoiles, à venir me voir sur LinkedIn et sur YouTube. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, même que les 2 dernières semaines ont été bonnes, et que vous allez pouvoir passer des bons moments à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt, et je ne sais pas quand, mais ce sera un lundi, pour un nouvel épisode de Bip Bip.